Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous commémorons le 7e concile œcuménique. Ça ne vous dit peut-être rien, mais je voudrais dire deux mots sur ces conciles œcuméniques. Au cours du premier millénaire de notre histoire, un certain nombre de questions de fond concernant la foi ou la pratique de la foi se sont soulevées et ont nécessité que les saints-pères, les évêques de l'époque se rencontrent et, avec l'aide de l'Esprit-Saint, déterminent quelle était la vérité à connaître, à comprendre et à suivre. C'est ainsi que, au cours de ces 7 conciles œcuméniques, il y en a eu 7, on les appelle œcuméniques, ça veut dire il n'y avait pas de question à l'époque de divergence dans l'Église. Œcuménique, ça voulait dire de la terre entière. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui universel. Donc tous les évêques de la terre étaient convoqués. C'est surtout évidemment en Orient, d'Orient qu'ils venaient, parce que les distances étaient longues et les voyages difficiles à cette époque-là. Les conciles œcuméniques ont toujours eu lieu dans le bassin méditerranéen, près de Constantinople. Celui-là a eu lieu à Nicée, c'est tout près de Constantinople, c'est le deuxième concile de Nicée. Il a eu lieu en 787 et il avait pour sujet les icônes. Vous savez que depuis 150 ans, on se disputait à l'époque pour savoir si on pouvait admettre les icônes dans le culte ou si c'était une hérésie. On se souvenait que l'Ancien Testament disait « Tu ne feras pas d'image, tu ne représenteras rien, etc. » Voilà. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui disaient « Oui, mais depuis, on n'avait pas le droit de représenter Dieu parce que personne ne l'avait jamais vu, mais depuis, nous avons vu le Seigneur. » Et Jean, dans son épître, dit « Il est venu, nous l'avons touché, nous l'avons entendu, et il était auprès de nous. » Donc, voilà, c'était légitime de faire ces icônes. Et on a bien spécifié au cours de ce concile qu'on n'adorait pas les icônes, mais qu'on les vénérait, et on les vénérait parce qu'elles nous renvoyaient. C'est pas l'image en tant que telle qu'on vénère, mais c'est la personne qui est représentée, à commencer par le Christ, qui est représentée sur l'icône. Saint Jean de Damas dira « Ce n'est pas le bois et la peinture que je prie ou que je vénère, mais c'est le prototype qui est représenté. » Voilà. Ça n'a pas réglé l'affaire tout de suite, mais enfin, il a fallu encore presque 70 ans pour que le culte des icônes, que les icônes réapparaissent dans les églises. Ce que je voulais dire, c'est que au cours de ces conciles, on a défini la foi. Les deux premiers conciles ont permis de mettre en place le credo, ce qu'on va chanter tout à l'heure. Voilà, ça date de ces deux premiers. Et de la part de ces évêques, c'était l'écoute de la parole. C'est pour ça que je pense qu'il y a un lien très, très, très naturel, très fort, entre ces conciles œcuméniques qu'on commémore et puis l'évangile qu'on vient de lire. C'était à l'écoute de la parole qu'ils avaient pu discerner dans l'évangile et dans les enseignements apostoliques, voilà, que la vérité sur le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toutes ces Voilà, tous ces éléments qu'on dit dans le credo. Discerner aussi le mystère de Marie, Vierge et Mère, qui a fait l'objet encore d'un autre concile quelques années plus tard. Ceci, il faut bien comprendre que ce sont des vérités qu'on n'a jamais fini de comprendre, qu'on n'a jamais fini d'intégrer dans le fond de notre cœur, de notre âme. Ce sont comme des bornes sur le chemin, des poteaux indicateurs. Si, sur le chemin de notre vie, si on ne voit plus ces poteaux, alors c'est qu'on n'est pas dans le bon chemin, c'est qu'on s'est trompé de route. C'est comme si on est dans la forêt et qu'on fait une randonnée. Voilà, il y a des repères. Tout d'un coup, on n'a plus de repères, c'est qu'on s'est perdu. Voilà. Donc, prenez-les comme ça, ces repères, ces dogmes. Ce n'est pas des vérités qu'il faut croire sans comprendre, mais au contraire, quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre, d'intégrer, de vivre en nous. Alors, le lien avec le semeur, il est assez naturel. Hein. On vient d'entendre donc, cette parabole du semeur qui sème sa semence dans différents sols. Et le Sauveur, le Seigneur lui-même, va nous donner l'explication de la parabole. C'est assez rare, mais là, il va donner l'explication. Et il explique que le semeur, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui sème dans les cœurs humains. C'est Dieu, on dirait, par l'Esprit Saint, qui sème dans nos cœurs. Et il y a toujours le risque énorme que cette semence ne se perde, ne se dessèche ou ne soit emportée par l'ennemi. En résonance, on trouve dans l'évangile de Jean comme une continuation de cette parabole du semeur lorsque le Seigneur dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est une parole extraordinaire. C'est une parole extraordinaire dans laquelle le Seigneur, là, ne s'identifie plus au semeur, mais au grain de blé, c'est-à-dire à l'agneau. Le grain de blé, c'est-à-dire symboliquement au pain eucharistique. De même qu'une seule goutte d'eau peut refléter le ciel, les étoiles, l'immensité du monde, de même ce grain de blé contient en lui toute la plénitude de la vie divine. C'est le Seigneur lui-même qui entre dans la terre de nos cœurs pour y mourir et y donner de fruits nombreux. La descente du Seigneur dans les cœurs humains est à l'image de son abaissement, de ce qu'on appelle la kénose. Elle manifeste ce risque énorme que prend le Créateur du ciel et de la terre en affrontant la liberté de l'homme. C'est le risque d'être rejeté ou d'en être séparé. C'est pourquoi le Seigneur se compare parfois à un mendiant. Souvenez-vous, dans l'Apocalypse, il se tient à la porte et il frappe. Et il dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je dînerai près de lui et auprès de lui, auprès de moi. » Oui, lui, moi auprès de lui et lui auprès de moi. Voilà. Ce risque que prend le Seigneur est en confirmation et la continuation de celui qu'il a pris lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Car le ciel et la terre ont été créés pour l'homme, qui en est le couronnement, le prophète, le prêtre, le roi. L'univers entier a été créé en vue de la vie divine que Dieu veut communiquer à sa créature. Même la science commence à s'en rendre compte et à le dire. Elle ne parle pas de vie divine, mais simplement de vie biologique. Et autant on cherche des planètes semblables à la nôtre, et en même temps, il y en a qui disent on ne va jamais la trouver. C'est tellement extraordinaire cette création, ce qui a été fait pour nous dans cet univers, qu'on n'en trouvera pas d'autres. Alors Dieu descend pour offrir sa grâce à l'homme. Dieu descend jusqu'à l'homme dans l'humilité, comme un petit enfant innocent, comme un serviteur qui lave les pieds de ses disciples. Encore et encore, nous voyons dans les évangiles les signes de l'humilité qui font la véritable grandeur de Dieu. Le Seigneur sème sa parole dans les cœurs humains, ou plus exactement, il descend lui-même, il entre dans les cœurs par sa parole, par sa révélation. Il pénètre dans les cœurs humains pour les transformer peu à peu. Et cette transformation, c'est le chemin de notre vie. C'est le but, le fruit de notre vie entière. La vie, c'est toujours une transformation. Si la vie s'arrête, stagne, alors c'est plus la vie. Nous sommes appelés à devenir chaque fois cette bonne terre, et la devenir de plus en plus bonne, de mieux en mieux. Cette bonne terre qui reçoit la semence. Une terre fertilisée par le feu, par l'eau, par le feu, c'est-à-dire par la chaleur, par l'eau et par le souffle de l'Esprit Saint. Ces trois grandes images de l'Esprit, et justement la terre, elle a besoin de ces trois éléments, de cette chaleur, de l'eau, et puis de la vie, de la vie sous forme de ces semences, pour devenir fertile et féconde, pour accueillir la semence divine qui vient mourir en nous, pour la faire germer et fructifier. Alors, il y a différentes manières de mourir. Il y a le grain qui meurt par dessèchement. Mais ce n'est pas de cette mort que le Seigneur parle. La mort, en vérité, la mort en esprit, la mort en Dieu, c'est mourir au vieil homme, c'est mourir pour donner la vie. C'est la loi de la nature, c'est la loi de notre vie. Et dans la mesure où le Seigneur, comme un grain de blé, vient mourir en nous, il s'assimile à nous, et nous nous assimilons à lui. Voyez-vous, c'est ce double mouvement, cette synergie, disent les pères, les théologiens. Alors c'est nous qui devenons la parole, qui devenons cette semence qui grandit et qui se multiplie. À notre tour, nous répandons la semence, nous la semons dans d'autres cœurs. Et je ne parle pas de moi, je parle de nous tous, de vous tous. À l'image du Seigneur, nous devons alors, nous aussi, mourir pour renaître. En conclusion, je dirais, puisse cette parabole du semeur et la phrase du Seigneur sur le grain de blé qui meurt être des paroles illuminatrices, comme elles ont été illuminatrices pour ces pères des conciles œcuméniques, et puis encore bien d'autres, bien sûr, mais voilà, des paroles illuminatrices pour nous apprendre à nous oublier nous-mêmes, pour accueillir cette semence et devenir nous-mêmes, petit à petit, à la pleine ressemblance de notre Seigneur, à qui soit la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.